RFI, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, alors qu'Israël a repris ses bombardements depuis mardi sur la bande de Gaza, des frappes sur des bâtiments de l'ONU ont tué un employé bulgare ce vendredi. Deux Français ont également été sérieusement blessés. Paris a exprimé sa consternation. On fera le point sur la situation dans le territoire palestinien dans un instant. En Turquie, une mobilisation massive à Istanbul ce soir. Les manifestants dénoncent pour le troisième jour consécutif l'arrestation du maire d'opposition, Ekrem İmamoğlu. La Turquie ne cédera pas à la terreur de la rue, a déclaré de son côté le président turc Erdogan. Au Royaume-Uni, les yeux étaient rivés sur l'aéroport d'Heathrow à Londres aujourd'hui. Un incendie a entraîné la fermeture du bâtiment, perturbant le trafic aérien mondial. L'aéroport a annoncé la reprise de certains vols en soirée. Et puis ce vendredi 21 mars, c'était la première journée internationale dédiée aux glaciers. Nous irons au festival Agir pour les glaciers en France, dans la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. À Gaza, l'armée israélienne dit ce soir avoir frappé des terroristes dans un hôpital désaffecté. Le ministère de la Santé du Hamas a dénoncé, je cite, un crime odieux. Depuis mardi, Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas en reprenant ses bombardements. Depuis, selon la défense civile de Gaza, au moins 500 personnes ont été tuées dans l'enclave. Des centaines de milliers de Gazaouis ont également à nouveau été forcés au déplacement. Les frappes semblent n'épargner personne, ni civils, ni travailleurs humanitaires. Les bâtiments des Nations Unies ont notamment été touchés, tuant un employé bulgare et blessant d'autres personnes, dont deux Français et un Britannique. On y revient avec Oriane Verdier.
Paris a exprimé aujourd'hui sa consternation en annonçant que deux Français employés de l'ONU avaient été sérieusement blessés dans l'explosion. L'attaque remonte à mercredi. Selon les Nations Unies, un engin explosif a été largué ou tiré sur le bâtiment et a explosé à l'intérieur. Le site onusien avait déjà été endommagé la veille par des frappes de l'aviation israélienne alors que sa localisation avait été transmise à l'armée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par la mort de l'employé bulgare du bureau de l'ONU pour les services d'appui au projet. Il a réclamé une enquête complète. Le directeur exécutif de l'agence onusienne touchée a affirmé que l'explosion n'était pas un accident. Le bâtiment était très connu et il était dans un endroit isolé, sans autre construction à côté. Londres, dont un ressortissant a également été blessé, exige une enquête indépendante et transparente. Israël a assuré enquêter sur les circonstances de l'incident. Plus tôt, l'armée israélienne a accusé le Hamas, affirmant qu'aucune activité opérationnelle n'avait eu lieu dans la zone. De son côté, le mouvement islamiste palestinien accuse Israël de mener une politique systématique visant des civils, des travailleurs humanitaires et des secouristes.
Oriane Verdier, et ce soir, l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté un missile tiré du Yémen après le déclenchement de sirènes d'alerte antiaérienne à Jérusalem notamment. En Turquie, c'est une foule monstre devant l'hôtel de ville d'Istanbul ce soir. Les manifestants dénoncent pour le troisième jour consécutif l'arrestation du maire d'opposition, Ekrem İmamoğlu, principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan. Il est visé par deux enquêtes pour terrorisme et corruption et toujours en garde à vue avec des dizaines d'autres membres de son parti, le CHP, Parti Républicain du Peuple, qui a annoncé la mobilisation de près de 300 000 personnes à Istanbul ce soir à Nandlower.
Malgré les interdictions de rassemblement décrétées dans les trois plus grandes villes turques, Istanbul, Ankara et Izmir, malgré la fermeture à la circulation des ponts et des grands axes qui mènent à la mairie d'Istanbul, l'épicentre de la contestation, malgré la très forte présence policière dans les rues, les manifestations se poursuivent et s'amplifient. Les étudiants sont en première ligne, mais ce qui semble avoir changé la donne, c'est l'appel du CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu, à descendre tous les soirs dans les rues du pays, à ne pas relâcher la pression sur le gouvernement. C'est le genre d'appel que le premier parti d'opposition turc, malgré toutes les violations de l'état de droit ces dernières années, ne lançait plus, n'osait plus lancer, par crainte notamment de donner du grain à moudre au pouvoir, prompt à assimiler toute protestation à une tentative de coup d'état ou au terrorisme. Le président Erdogan a d'ailleurs rapidement réagi à cet appel. Il a promis que la Turquie, je cite, « ne serait pas livrée à la terreur de la rue ». Le parquet d'Istanbul a quant à lui fait savoir qu'Ekrem İmamoğlu serait déféré devant un tribunal demain samedi dans la soirée. À Nandlower, en Ankara, RFI.
À noter également que le bâtonnier d'Istanbul et les membres de son conseil de l'ordre ont été démis de leurs fonctions ce vendredi. Ils sont poursuivis pour propagande terroriste et diffusion publique de fausses informations selon une décision de justice publiée en ligne par une association d'avocats. La justice turque leur reprochait d'avoir réclamé une enquête sur la mort fin décembre en Syrie de deux journalistes kurdes turcs. Direction Londres, c'était une journée de chaos pour l'aéroport d'Heathrow. Le plus gros aéroport d'Europe était fermé depuis ce matin en raison d'un incendie. Les vols prévus au départ et à l'arrivée ont été annulés, reportés, détournés. Le trafic reprend progressivement ce soir. C'est une opération de retour à la normale, Emeline Vin.
Dans un premier temps, vendredi soir, deux priorités. La première, c'est le rapatriement des passagers dont les liaisons ont été détournées et qui ont atterri à Paris, Amsterdam ou Munich, par exemple. La deuxième, faire revenir les avions et le reste du matériel resté coincé dans d'autres aéroports. Les passagers qui devaient voyager vendredi restent invités à ne pas se rendre à Heathrow, sauf si indication contraire de la part de leur compagnie aérienne. British Airways, par exemple, a repris quelques liaisons long courrier. Dans un deuxième temps, samedi, Heathrow espère que tous les vols planifiés samedi pourront opérer comme prévu. Ce serait une bonne nouvelle qui limiterait les perturbations craintes par l'industrie aéroportuaire mondiale. En revanche, c'est encore le flou pour les passagers de vendredi dont les vols ont été annulés. Une passagère qui devait rentrer à San Francisco raconte avoir passé sa journée à tenter de joindre sa compagnie pour finalement devoir réserver un nouveau vol par elle-même lundi. Le patron de l'aéroport d'Heathrow présente ses excuses à tous les voyageurs mais assure que la décision de fermer l'aéroport était la meilleure possible. Emeline Vin, Londres, RFI.
Et cet incendie ne semble pas criminel, ont déclaré ce soir les pompiers de Londres. Quel avenir pour l'Ukraine ? Des négociations sont prévues lundi en Arabie Saoudite par l'intermédiaire des Américains. Les rumeurs se multiplient concernant les exigences de Moscou et de Washington et les concessions que doit faire l'Ukraine pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. En Ukraine, des citoyens se disent outrés par la tournure des événements, à l'image de Oleg Djolos, professeur agrégé et enseignant à l'Université nationale Taras Shevchenko à Kiev.
Je vois qu'on impose des exigences à l'Ukraine, mais je n'ai vu ni entendu, du moins dans l'espace public, aucune exigence envers la Russie. Je me demande quelles concessions la Russie est prête à faire pour mettre fin à cette guerre. Nous avons entendu quelles concessions on demande à l'Ukraine. Il s'agit notamment de céder des territoires et de renoncer à notre adhésion à l'OTAN. En tant que citoyen ukrainien, je ne peux pas accepter cela. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il décider pour les Ukrainiens ? Pourquoi devrait-il choisir si l'Ukraine peut adhérer ou non à une organisation internationale, ou si elle doit céder des territoires pour lesquels nous avons versé notre sang ?
Des propos recueillis par Christina Petkova. Ce vendredi 21 mars, c'était la première journée internationale dédiée aux glaciers, alors que l'année 2025 est consacrée à leur préservation, d'après l'ONU. À cette occasion, la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, célèbre station de ski des Alpes françaises, accueille le festival Agir pour les glaciers. Pendant trois jours, des scientifiques, des politiques et des citoyens se réunissent pour comprendre nos interdépendances avec les glaciers, repenser les territoires de montagne affectés par le réchauffement climatique et trouver des solutions pour remplacer des modèles non soutenables. Sur place, Igor Strauss du service environnement de RFI a rencontré Guillaume Desrues, jeune maire sans étiquette de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. On l'écoute.
Nous avons la chance à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs d'avoir trois glaciers et on peut se rendre compte d'année en année à quel point ces glaciers se réduisent et à quel point ils ont un impact de plus en plus important, notamment quand on a ces étés avec ces fortes chaleurs. Ces glaciers sont des véritables châteaux d'eau qui nous permettent justement de continuer à bien vivre dans cette vallée puisqu'on a quand même de l'eau qui est relâchée pendant ces périodes d'été. Et surtout, cette eau, elle n'est pas que pour le territoire de Bourg-Saint-Maurice ou de la Tarentaise. Cette goutte d'eau qui est relâchée par nos glaciers, elle va jusqu'à la Méditerranée en passant par la Drôme, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône. Donc il y a des millions de personnes qui dépendent de l'eau qui est issue de nos glaciers. Et la difficulté qu'on a maintenant, c'est que chaque année, on observe des modifications, mais absolument dramatiques, de la physionomie de nos glaciers. Tous nos écosystèmes, qu'ils soient naturels, mais aussi économiques, dépendent de l'eau de nos glaciers. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se battre pour les préserver.
Des propos recueillis par Igor Strauss. En France toujours, Medine Mouche condamné à la perpétuité. La cour d'assises spéciale de Paris l'a reconnu coupable d'avoir été un geôlier de journalistes français à la solde du groupe État islamique. C'était en Syrie en 2013. Medine Mouche, on reviendra donc sur cette affaire dans moins d'une heure à l'occasion du journal de 24 heures en France.